simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 21 et 22 mai dernier avaient lieu les rencontres internationales anti-olympiques à Saint-Denis, organisées par la coalition Saccage 2024. Saccage 2024 rassemble des collectifs et des associations de Seine-Saint-Denis et de ses alentours qui défendent leur espace de vie menacé par la préparation et la tenue des Jeux olympiques. À cette occasion, étaient présents d'autres collectifs dont certains d'entre eux avaient fait le déplacement depuis l'international, tels que Rion Watch, No Olympia Hambourg, No Olympic Los Angeles, Stop JO pour Barcelone et les Pyrénées, mais aussi la Quadrature du Net, le collectif de défense des jardins d'Aubervilliers et Pleyel, Avenir pour la France. Cette table ronde portait précisément sur le greenwashing.
Aujourd'hui, il y a plusieurs objectifs à la journée. C'est d'abord de se donner des outils pour, idéologiques pour lutter contre les JO, ici et ailleurs. C'est aussi de se rencontrer, parce que pour beaucoup, en fait, ils se connaissent déjà depuis longtemps, mais que à distance, parce qu'ils et elles habitent loin. Et puis après, c'est se transmettre une mémoire des luttes anti-JO, de comprendre, de se partager des pratiques de lutte de toutes les régions, quoi. Et puis de consolider la lutte à l'échelle internationale, en même temps que de questionner nos stratégies ici à Paris par rapport aux JO qui arrivent dans 2 ans.
On va commencer donc avec une première session qui va porter principalement sur la manière dont les Jeux Olympiques ont tenté de se verdir, non seulement dans leur image, mais aussi leur stratégie, la manière de mettre en place les Jeux Olympiques, et donc essayer de comprendre un peu le greenwashing olympique. Et pourquoi, comment lutter contre cette stratégie. Donc on va essayer de comprendre comment les JO s'implantent et comment résister contre notamment les candidatures. On va essayer de comprendre pourquoi ce qui arrive à Paris aujourd'hui, ça s'inscrit dans une logique, dans une stratégie du capitalisme et dans une stratégie de métropolisation qui est là depuis longtemps et que les JO ne font qu'accélérer. Et puis on va aussi essayer de comprendre pourquoi les JO sont aussi un cheval de Troie pour pas mal de politiques publiques, notamment sur le cadre sécuritaire ou législatif. Pour commencer, là on va prendre un petit moment pour parler plus spécifiquement de ce qui se passe à Paris. Donc Hamid, tu fais partie d'une fédération de conseils de parents d'élèves à Saint-Denis et du comité de vigilance JO 2024.
Voilà, donc je me présente, Hamid Ouidir, parent d'élèves élu FCPE dans le groupe scolaire Pleyel France, donc, et membre du conseil départemental de parents d'élèves de la Seine-Saint-Denis. Deux projets parmi tant d'autres liés aux Jeux Olympiques posent problème aujourd'hui. Le village des médias sur l'aire des vents à Duny et le solarium sur les parcelles des jardins centenaires d'Aubervilliers. Un autre problème vient surgir, celui de Pleyel. Ce quartier accueillera pour sa part 6 grands projets monumentaux, dont voici la liste. Le village olympique, les lumières Pleyel, les annexes de la tour Pleyel, dont une tour de grande hauteur, 22 étages, la gare du Grand Paris Express Pleyel, le franchissement urbain Pleyel, l'échangeur complet de la 86. Le quartier Pleyel est situé à 2,4 km au nord de Paris, dans la ville de Saint-Denis. Plusieurs projets qui préparent les Jeux Olympiques de 2024 y seront réalisés et reporteront la circulation automobile de la périphérie de ce quartier en son centre. Le village olympique et paralympique accueillera 14 000 athlètes. Enfin, c'est des personnes comprenant donc ces athlètes et leurs accompagnateurs. Et réduira de 3 voies à 2 voies la circulation périphérique côté Seine de ce quartier. Le franchissement urbain Pleyel sera construit pour relier ce dernier aux autres sites olympiques. Ce sont ainsi que les projets annexes de la tour Pleyel réduiront de 4 voies à 2 voies l'axe périphérique du côté des voies ferrées. Donc, elle reportera au cœur du quartier une circulation périphérique de 10 000 à 20 000 voitures au centre du quartier. Un grand hub de transport en commun du nom de Grand Paris Express Pleyel sera réalisé à l'horizon de 2024, à moins de 500 mètres d'un diffuseur, le diffuseur de la 86 à Pleyel. Ce hub sera fréquenté par 250 000 passagers par jour, dont une partie y accédera par Pleyel. Dans ce contexte, l'échangeur complet de l'autoroute A86 à Pleyel, dans son format actuel que nous dénonçons depuis 3 ans, vient aggraver la situation en augmentant drastiquement et en concentrant la circulation au centre du quartier Pleyel. On veut du green.
Maintenant, je vais te passer la parole pour que tu parles du contexte à Aubervilliers.
Je vais vous parler du projet de construction de la piscine olympique avec annexe équipement sportif et solarium qui a détruit et qui impacte les jardins d'Aubervilliers, contre laquelle il y a une lutte depuis l'été 2020. Il y a un an précis, on a inauguré officiellement l'occupation des jardins qui a été évacué le 2 septembre 2021 et le jour après, le jardin était déjà rasé. C'est juste un demi-hectare. Malheureusement, on nous a donné raison malheureusement après. En janvier et puis en mars de cette année, on a eu des victoires juridiques importantes qui ont obligé la mairie d'Aubervilliers et Grand Paris Aménagement qui sont derrière ce projet à changer leur projet. Et aussi la communauté des communes, pleine commune, a changé le plan local d'urbanisme et donc pas pouvoir construire sur cette parcelle des jardins. Mais je viens vous parler surtout du contexte qui agit sur ce projet, qui explique bien pourquoi ce n'est pas un projet vert, ce n'est pas un projet écologique que de faire les JO les plus verts de l'histoire à Paris en 2024. La piscine se construit dans un contexte d'un quartier qui est impacté par le projet du Grand Paris, qui implique d'un côté un écoquartier au sein du fort d'Aubervilliers, qui était une vaste friche jusqu'à maintenant, depuis les années 70, et qui était utilisé comme casse d'automobile. Ça implique aussi une gare pour la ligne 15 du Grand Paris Express, les nouvelles lignes du métro qui vont relier les banlieues entre elles et qui vont permettre d'aller jusqu'à la Défense en 15 minutes, selon les publicités des Grands Paris, et la rénovation du quartier de la Maladrerie et de la cité Émile Dubois, qui sont juste à côté du fort d'Aubervilliers. C'est une rénovation qui implique des privatisations et des destructions d'immeubles et des résidentialisations sur 600 logements sociaux historiques d'une valeur architecturale assez importante. Dans tous ces contextes, on voit bien que le projet des piscines n'est pas juste un projet sportif ni un projet écologique. L'idée, c'était d'utiliser des terres qui ne sont absolument pas rentables, qui ne produisent pas de profit, et de permettre aux promoteurs et aux aménageurs urbains de développer leurs projets pour faire du pognon sur des jardins qui sont considérés inutiles. Ce n'est pas dit dans la communication de Grand Paris et de la mairie d'Aubervilliers ni des Jeux Olympiques, mais c'est un peu l'idée. Nous, on s'est mis en lutte contre ce projet parce que les Jeux Olympiques et contre les Jeux Olympiques aussi. Donc, on est impliqué dans ce mouvement anti-olympique international parce que les Jeux Olympiques sont au service d'une logique capitaliste, d'une logique gentrificatrice qui va repousser les populations qui habitent en ce moment le quartier du Fort d'Aubervilliers et des autres quartiers des banlieues parisiennes, et qui va polluer et détruire du vivant, simplement. Et tout ça au service d'une prétendue développement vert et des jeux les plus verts de l'histoire.
On va terminer ce petit moment sur Paris avec du coup Arthur qui va nous parler un petit peu de la stratégie proprement de Paris 2024, qui est l'émanation française du Comité olympique international.
Comme Kamad l'a dit, le but d'un peu de mon intervention, c'est de montrer comment Paris 2024 essaye de se verdir. Alors, c'est un peu un fait intéressant de voir comment les JO vraiment essaient de se verdir. En gros, on nous dit que grâce aux Jeux, les choses vont être de plus en plus écolo. Vous vous rendez compte que même c'est le discours qu'on nous a tenu, on va réussir à avoir des gourdes dans les stades. Et que ça, c'est une grande avancée pour l'écologie. On pourra, grâce aux JO, faire une jurisprudence où on montre que c'est possible de rentrer des gourdes dans des stades. Donc voilà où est-ce qu'on en est dans le discours. Les JO parlent de toujours un objectif zéro carbone, comme si déjà il n'y avait que les émissions de carbone qui étaient en compte. Et en plus, ils se basent sur de la compensation. Et donc quand on arrive au parc de la Courneuve, on ira demain, il y a des panneaux comme ça qui nous expliquent qu'on agrandit le parc de la Courneuve de 13 hectares. Et ça aussi, c'est faux. Déjà, on a coupé des arbres dans le parc de la Courneuve, alors qu'on n'a pas planté, enfin, on a planté des nouveaux, mais c'est des petits demi-tiges ridicules, ça ne vaut pas du tout des arbres qu'on a coupés. À droite, vous avez en triangle, c'est l'aire des vents. Et donc ça, c'est ce qu'on va bétonner sur 7 hectares. Et à gauche, vous avez la partie qui s'appelle terrain des essences. Essence comme l'essence qui sert à faire fonctionner les voitures. Donc c'est les hydrocarbures, donc c'est des terrains qui sont pollués. Et on nous dit qu'on va dépolluer cette aire et que du coup, ça ragrandit le parc. Alors qu'actuellement, on voit très bien sur la vue que c'est déjà vert et qu'on n'agrandit pas le parc. On artificialise du sol, c'est ce qui se passe. Mais comme ils dépolluent un sol et que sur le PLU, ça passe de sol pollué à parc, et ben ça y est, ils disent qu'ils ont compensé ce qu'ils ont détruit dans l'air des vents. De la même façon, les arbres qu'ils ont coupés, ils les replantent à 30 km d'ici, à Pierrelaye. C'est de la compensation, on est bon. WWF aussi est signataire des Jeux. Enfin, en gros, ils ont signé une charte écolo pour les Jeux Olympiques. Donc WWF, une grosse orga écolo. Et voilà, c'est intéressant de voir que les JO cherchent à avoir des partenaires comme WWF pour se donner une image verte, alors qu'on vient de voir que tout ça, c'est faux. Il y a le projet de Taverny. Donc c'est toujours un des projets qui se donne l'étiquette JO, mais qui ne sont pas exactement demandés par les JO. Enfin, toujours ce flou un peu. Et donc à Taverny, on construit des piscines d'entraînement olympique sur des forêts. Et donc on bétonne des forêts pour construire des pistes olympiques qui en plus sont en périphérie de la ville, donc accessibles qu'en voiture, donc il faut faire des grands parkings, des grands ronds-points, et voilà où on en est. C'est le village des athlètes qui est aussi sur l'île Saint-Denis. C'était une friche, et donc en effet c'est pas des espaces verts, mais plutôt que d'en faire des espaces verts, ils en font un écoquartier dans lequel il n'y aura que 1,5 hectare de parc, et du coup ça y est, c'est un super écoquartier hyper végétalisé, alors qu'on aurait pu faire un parc sur toute la friche.
On va juste enchaîner avec du coup une vision qui va être un peu plus une vision de personnes qui font de la recherche. On accueille Jules Boykoff, qui donc a écrit plusieurs livres sur le sujet des mouvements anti-olympiques. Donc on va aussi accueillir Sven Daniel, qui va un peu nous parler de l'impasse des JO soutenables, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est un peu pour aussi avoir une approche du coup historique de toute cette évolution vers des JO plus soutenables dans le discours et dans la manière dont ça se met en place.
Greenwashing is ingrained in the Olympic.
Greenwashing, c'est quelque chose qui est au cœur du projet olympique. Le greenwashing, c'est montrer un intérêt pour l'environnement et réclamer du crédit pour proposer des solutions, alors qu'en réalité, ils font le minimum, le strict minimum, si ce n'est pas rien du tout, pour faire des gains sur les matériaux écologiques.
David Harvey describes greenwashing.
David Harvey donc décrit le greenwashing comme étant le fait de déguiser un projet basé sur le profit comme un projet pour le bien-être pour améliorer le bien-être des humains.
Symbolism trumps substance.
Donc le symbolisme trompe la substance.
The International Olympic Committee began.
Donc le Comité international olympique a commencé à prendre en compte l'environnement dans sa rhétorique dans les années 90. Et en 92, les Nations Unies ont tenu un sommet de la Terre à Rio de Janeiro, où ils ont révélé l'agenda 21, donc son plan pour un développement environnemental durable.
The International Olympic Committee,
le Comité international olympique a suivi la direction des Nations Unies et en 94 au Congrès olympique, ce Comité international olympique a proclamé que l'environnement était un composant essentiel de l'olympisme.
However, its follow-through has been consistently weak.
Donc néanmoins, le suivi de cette politique a été faible de façon tout à fait constante, bien que le Comité international olympique ait le pouvoir d'inclure des demandes qui soient renforcées légalement pour l'environnement dans les accords avec les villes hôtes. Le groupe a choisi de ne pas le faire. Donc la plupart du temps, l'environnement au sens du Comité international olympique est proféré durant la phase de candidature pour renforcer le support local, pour tenir les Jeux et pour accueillir les Jeux. Et ils sont ensuite ignorés une fois que les Jeux sont effectivement mis en place.
At the London 2012 Olympics,
donc aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, les organisateurs ont créé une nouvelle catégorie de sponsors d'entreprise qu'ils ont appelé les partenaires soutenables. Et donc ça inclut BP, BMW, BT, Cisco, EDF Energy et General Electric.
Because everybody thinks.
En réalité, il n'y avait aucun standard sur l'environnement qui devait être respecté pour devenir ce type de partenaire. Aucun engagement concret.
La
candidature aux Jeux de Rio avait promis de nettoyer la baie de Guanabara, qui est connue pour être très polluée, en filtrant 80% des eaux qui rentraient dans la baie.
Mais ça n'a jamais happened.
Évidemment, ça ne s'est jamais produit. Après les Jeux Olympiques, c'est 170 millions de gallons d'égouts non traités qui ont continué à s'écouler tous les jours dans la baie de Guanabara.
Rio organizers promised to plant 24 million trees.
Donc les organisateurs de Rio avaient promis de planter 24 millions d'arbres en 2016. Et Carlos Mink, le chef de l'État de Rio, enfin, le secrétaire à l'environnement de l'État de Rio, avait même été plus loin en promettant 34 millions d'arbres au moment des Jeux. Pourtant, un an avant les Jeux, les autorités environnementales ont révélé que seulement 5 millions, donc sur les 34, d'arbres avaient été plantés. Rio 2016 n'avait planté que 8 millions d'arbres au moment des Jeux. Donc moins d'un quart des promesses et moins d'un tiers de ce qui avait été promis au moment de la candidature.
Then there's the brand new golf course in Rio, built.
Donc ensuite, il y a eu le terrain de golf tout nouveau à Rio qui a été construit spécifiquement pour les Jeux en 2016. Rio avait déjà deux golfs d'élite qui avaient accueilli des tournois majeurs.
Instead, they built a new golf.
À la place, ils ont construit un golf tout neuf au sein de la réserve naturelle de Marapendi qui héberge de nombreuses espèces menacées.
The Marapendi Reserve is an ecologically sensitive.
Donc la réserve écologique de Marapendi est une zone extrêmement sensible, protégée par la loi depuis 1959. Et pour construire le golf, la végétation et les habitats naturels ont été dévastés. Une fois de plus, les causes environnementales et les soucis environnementaux n'ont pas du tout été pris au sérieux.
And here you can see a sad capybara.
Donc maintenant, on est à Pyeongchang en 2018, où la candidature de Corée du Sud avait promis un rêve vert olympique, incluant notamment les stratégies environnementales les plus avancées. Et pourtant, ils ont changé de direction et ils ont coupé 58 000 arbres dans une forêt sacrée de 500 ans sur le mont Gariwang pour remettre une piste de ski à la place. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo avaient promis que tenir les Jeux Olympiques aiderait à se reprendre après les incidents dans la région de Fukushima, où il y a eu donc à la fois un tremblement de terre, un tsunami et une fusion, un accident nucléaire. Mais rien de la sorte ne s'est produit.
Here's a photo I took in July.
Donc, c'est une photo de juillet 2019, donc pendant les Jeux, 2 ans avant les Jeux, de ce que les personnes sur place appellent les pyramides noires, donc des grosses piles de sacs noirs remplis avec du sol à différents degrés d'irradiation.
Beijing organizers cut down.
Les organisateurs des Jeux de Beijing ont coupé ou détruit une zone sensible dans la réserve naturelle de Songshan pour faire une piste de ski et ensuite on produit de la fausse neige.
This gobbled up sparse water supplies.
Les Jeux Olympiques, dans leur essence, dans leur noyau, sont un événement qui n'est pas soutenable, un événement non écologique.
Since the IOC ramped up its environmental claims, the games have only become bigger, their impacts ever more damaging.
Depuis que le Comité international olympique a augmenté ses prétentions environnementales, les Jeux n'ont fait que de devenir plus gros et leurs impacts toujours plus endommageants.
Greenwashing anesthetizes.
Donc le greenwashing anesthésie le public aux impacts environnementaux des Jeux Olympiques. Il insinue de façon insidieuse que les choix individuels des consommateurs sont ceux qui vont améliorer l'évolution de la crise écologique.
Greenwashing blunts the reality.
Donc le greenwashing masque la réalité, qui est que les Jeux Olympiques sont un véhicule qui change de forme à chaque événement, mais pour les objectifs du capital global et qui laisse des marques indélébiles sur les villes, les écosystèmes et notre futur collectif.
Avant de passer au sujet des candidatures, on voulait vous proposer juste de prendre 3 questions maximum, questions ou interventions assez courtes.
Pendant ces 3 dernières années où j'ai essayé avec beaucoup de parents, ils ne sont pas si énormes que ça, parce que l'euphorie créer justement ce truc qu'on disait, c'est comme un traumatisme de guerre, en fait, à l'envers. Donc, en fait, les gens sont prêts à accepter tout. Comme vous dites, dans les territoires qui sont impactés, on le vit réellement et de manière durable. J'ai essayé, de capter justement l'intérêt de Greenpeace, des associations, des organisations internationales, puisque c'est un événement international. Donc, on essaye de, aussi, nous, de notre côté, de faire émerger, en fait, des opposants, pas JO, mais des opposants à des choses, le greenwashing, cette politique désastreuse. Quel est le lien, quelle est la capacité de l'ONU, donc Organisation des Nations Unies, dont fait partie l'UNICEF, par exemple, qui est aussi une agence des Nations Unies. On sait qu'il y a une connivence, il y a peut-être des financements. Enfin, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on voit que le CIO, en fait, infuse de milliards et de milliards de dollars toutes ces organisations qui sont censées nous protéger dans le monde, pas seulement dans un pays. Et on se rend compte que quand on fait appel ou qu'on essaye de faire appel à des organisations supranationales, parce que dans la nation, on voit bien que ça passe pas. On est parti au Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a même pas voulu instruire notre dossier. Donc on passe à l'Europe. Et le problème, c'est que même à l'Europe ou au-delà de l'Europe, on voit qu'il y a des blocages. Et est-ce que vous, dans vos recherches, est-ce que vous avez vu des choses qui vous permettent de dire qu'ils ont phagocyté, en fait, toutes ces associations, toutes ces organisations qui sont censées, justement, être la police qui interdit ce genre de choses?
Merci. Ouais, c'est vraiment la question la plus importante, je crois. Et je suis vraiment content que vous l'avez posée. Pour moi, de mon point de vue, je crois que c'est un problème des échelles. Parce que les gens qui travaillent au niveau international avec ces organisations, moi-même, au niveau personnel, quand je parlais avec les organisateurs de CIO à Lausanne, honnêtement, entre nous, ils essaient d'améliorer les problèmes. Ils savent les problèmes et ils veulent l'améliorer. Parce qu'il n'y a personne que j'ai rencontré moi-même qui dit « Oh, on veut détruire les vilotes ». Non, mais non, c'est au contraire. Mais ils ont des idées différentes. Qu'est-ce que ça veut dire développement? Qu'est-ce que ça veut dire un progrès? Alors, au niveau humain, quelque chose s'est perdu. Parce que pour vous, c'est votre ville. Ouais? C'est votre vie, c'est votre ville. Et le droit à la ville se perd quelque part entre ces niveaux-là et ici, où nous habitons. Alors, peut-être c'est un peu naïf, mais je crois que c'est tellement important de parler tous ensemble avec la solidarité au niveau de la quartier pour qu'ils entendent. C'est pour ça que je participe ici, c'est pour ça que c'est vraiment un honneur de venir ici et de juste essayer de faire ces liaisons. Parce qu'on doit crier pour qu'ils ne peuvent pas nous ignorer. C'est la seule solution. Je dois, peut-être encore, c'est naïf, mais je dois crier qu'ils ne veulent pas détruire votre vie, votre quartier. Mais ils ne comprennent pas. Peut-être. Mais il y a des autres qui sont plus cyniques que moi, qui trouvent que ouais, le processus de capitalisme, on doit le finir parce que c'est vraiment une lutte contre vous. Je ne suis pas expert de Paris, je ne peux pas le dire. Mais je vois dans tout le monde qu'il y a cette idée bizarre que nous savons comment développer la vie. Et ils n'entendent pas les gens qui habitent dans cette ville. Ah, ça, pour moi, c'est le problème.
L'idée, c'est de comprendre, donc on passe un peu à autre chose, c'est de la lutte au moment des candidatures. Donc nous, à Paris, on n'a pas réussi à faire arrêter la candidature, malgré que Non au JO soit là depuis très longtemps. Donc on est dans la situation où on doit lutter contre les chantiers, contre l'avancée des travaux. Mais en fait, il y a des villes qui s'y prennent beaucoup plus à l'avance quand la région ou la ville est candidate. Et en fait, c'est là qu'on voit dans l'histoire des luttes anti-JO que ça paye le plus. On voulait parler de plusieurs endroits donc, qui sont déjà passés. Donc c'est Ulf en fait, qui a lutté à Hambourg, qui était candidate pour les JO de 2024. Et eux, ils ont réussi à faire arrêter leur candidature là-bas par un référendum et ils ont dit non. Donc on va entendre sa manière de lutter à lui. On va aussi parler donc, de deux villes, deux régions. Une au Japon, à Sapporo. Alors il n'y a personne qui pourra en parler, mais on va vite fait l'évoquer. Et puis il y a surtout les Pyrénées-Catalognes qui sont candidates pour les JO d'hiver 2030 en même temps que Sapporo. Et ils sont dans une lutte déjà depuis un moment et qui est hyper forte. Voilà, donc c'est assez incroyable. Donc ils vont nous en parler aussi. Et puis nous, en France, on est aussi concernés parce qu'en fait, la région PACA est candidate pour les JO de 2034. Il n'y a personne qui a pu venir de PACA, mais ils sont au courant et ils sont en train de s'organiser aussi contre la candidature là-bas. Voilà, du coup, si tu as envie de commencer, Ulf.
And thank you for organizing that. That's really great that you're doing that. And thank you for translating.
Donc c'est Ulf qui vient de Hambourg. Il travaille notamment sur la production d'images autour de la question du droit à la ville et des réseaux de droit à la ville à Hambourg.
I have to mention two projects because our name is Nolympia.
Donc il y a deux projets Nolympics en Allemagne avant Hambourg dont il va parler.
C'est Nolympia Berlin. In 1993.
Berlin en 93.
Et Munich in 2013.
Et Munich en 2014.
Different conditions, there's no time to explain
that. Sans rentrer dans les détails, les deux candidatures ont pu être annulées grâce aux protestations.
And there was already in 2003 an effort in Hamburg. But 12 years
later, il y a eu une première tentative en 2003 du Comité international olympique allemand. Et puis 12 ans plus tard, donc, ils ont réessayé pour essayer de tenir les Jeux 2024 à Hambourg.
And to get the Olympic Games to
donc
Germany,
la ville de Hambourg a voulu tenir un référendum au niveau municipal pour s'assurer du soutien de la ville et pour renforcer son soutien au projet. Et ils étaient quasiment sûrs qu'ils allaient gagner.
So it was on us to hold against.
Donc ça a été à eux, les militants, de s'opposer et de faire campagne pour le non. Et donc ils ont construit une plateforme au niveau de Hambourg pour travailler et proposer le non au référendum.
But we were not alone. There was, for example, the Green Youth.
Donc évidemment, c'était pas que son collectif à lui, mais il y avait aussi les Verts de la ville, ce qui était particulier parce qu'ils étaient au gouvernement à l'époque, mais aussi le réseau de droit à la ville qui participait aussi.
Really short, some key points of our campaign because we have been.
Donc c'est une campagne qui s'est organisée autour d'une coalition pour faire entendre différentes voix, notamment sur le thème du sport pour tous.
Let's focus on ecology, not on mega projects.
Donc l'écologie et non pas les méga projets.
Improve social infrastructure, schools, education.
Donc la non modification de la ville par les jeux.
And forward to an inhabitant-centric urban politics like that, similar to what we heard before here in Saint-Denis or in other parts.
Et demander donc une politique qui soit centrée sur les besoins des habitants avant tout.
And our main channel of publicity, because we had.
Donc, comme ils n'avaient aucun financement, le principal canal pour faire campagne, ça a été des affiches, des stickers et toute la politique de communication visuelle. Donc là, on voit donc une collection de l'ensemble des visuels, enfin d'une partie de l'ensemble des visuels qui ont été produits avec les arguments associés. Et c'est l'expression, pas seulement de la plateforme à laquelle il appartient, mais aussi de tous les groupes ou individus qui ont pu s'exprimer sur le sujet.
Just one rough example. Suddenly one morning.
Donc ça, c'est un exemple d'une peinture qui est apparue un matin au pied d'une station de métro d'un groupe qui ne faisait pas partie de la plateforme, mais qui a été très utile puisque ça a été mis là sur une zone fréquentée la veille du référendum.
And our most successful sticker, most demanded, people came to us and say we want to have some because we want to share this in the neighborhood, was a really simple message, warning. Information will endanger your enthusiasm for the games.
Voilà, donc un des stickers qui a eu le plus de succès, c'est celui-là. Et donc, effectivement, l'information, si vous le voyez mieux que moi, mais l'information va endommager votre enthousiasme pour les jeux, une fois que vous saurez de quoi il s'agit réellement.
And this was somehow our basic tactic, like bringing.
Donc, c'était vraiment le principal canal, c'est-à-dire d'apporter de l'information pour que les gens n'avaient pas, pour que les gens puissent par eux-mêmes s'informer et ensuite avoir une voix critique sur cette candidature.
And here, really shortly, the pro campaign. You can see.
Okay, donc des images de la campagne pour l'accueil avec des images en 3D. I didn't get white elephants.
White elephants, that's a kind of name for these monstrous stadiums that is only needed for 2 weeks.
Ok, donc c'est le nom des grands stades qui sont utilisés que pour quelques semaines. Et des messages superficiels, voilà. Donc campagne, c'est la 3D et des messages superficiels.
And to relate to the earlier contributions to this talk, of course.
Ok, donc il dit qu'il est familier avec le concept des jeux verts et les plus verts de l'histoire, et que c'était même un des arguments des gens pour, puisque il disait qu'il fallait voter pour eux pour leur donner la force de faire ces jeux durables. Donc en votant oui, en fait, on aidait le gouvernement à faire des jeux durables.
Sorry to the end. This was the outcome of the referendum.
Okay, donc le résultat du vote a été celui-là. Évidemment, ça ne comprend que ceux qui ont voté, donc les citoyens de nationalité allemande. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que c'est les quartiers qui étaient impactés par les Jeux, qui auraient été impactés par les Jeux Olympiques, qui ont le plus voté non, qui ont largement plus voté non que les quartiers non impactés.
Okay, so what's left for Hamburg? Hopefully no more efforts ever to become a bidding city.
The senator. Okay, donc il espère qu'ils auront plus jamais que la ville d'Hambourg ne sera plus jamais candidate pour les jeux et que donc ça en est fini pour ça. La personne qui avait porté le projet donc est sortie très frustrée évidemment de ce référendum et a essayé de candidater au Comité international olympique. Je crois si j'ai bien compris le job qu'elle a pas eu. Donc voilà, elle a vraiment tout raté cette personne. commentaire personnel. Ce qu'il dit, c'est que potentiellement comme compensation, en fait, Hambourg a eu le G20, donc qui a eu lieu quelques années après la candidature, comme une compensation pour les élus locaux de tenir quand même un grand événement dans leur ville.
But this was one of the most awful events ever that happened in Hamburg.
Le plus gros événement à Hambourg depuis toujours.
Okay, so my last sentence. We have been.
Okay,
really
donc I missed some of it. But. Donc il est très content d'avoir été invité et de pouvoir faire de se rencontrer avec tous les autres groupes qui ont lutté. Il a cité toutes les villes qui avaient réussi, soit par des référendums, soit par des protestations dans la rue, à ne pas faire en sorte que les jeux ne soient pas tenus dans leur ville. Donc un certain nombre de villes en Allemagne, notamment.
Allemagne, d'Europe et de North America.
Yeah. Et donc en Europe et en Amérique du Nord.
Green, 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 green.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur 106.3.
Donc là, on va passer un peu sur les jeux d'hiver pour les candidatures à venir. En fait, il y a donc en ce moment la candidature qui n'est pas décidée, la ville qui n'est pas décidée, c'est notamment celle des JO de 2030, des JO d'hiver. Il y a principalement en candidate pour l'instant les principaux endroits qui sont pressentis. Il y a notamment la ville de Sapporo au Japon, et donc après il y a les Pyrénées catalanes dont Bernard va nous parler. Donc juste en fait, il y avait une personne qui devait venir de Sapporo qui n'a pas pu venir, Kaori Kashida. Donc on va dire quelques mots juste à propos de ça. Donc Sapporo, c'est une ville de presque 2 millions d'habitants, qui est la capitale d'une région du Japon. Il y a un des enjeux actuels, c'est d'attirer le tourisme international vers les sports d'hiver de cette ville, qui par rapport notamment à une ville voisine est un peu moins en croissance vis-à-vis du tourisme. Les touristes ont plutôt tendance à aller vers cette autre ville qui s'appelle Niseko. Et pourtant, c'est une ville qui a longtemps essayé de se développer, d'attirer du tourisme international. Et donc, notamment, ils ont fait 4 candidatures différentes pour les JO. En 68, en 72, et là, ils ont obtenu. Et en 84, et pour 2030. En ce moment même, même si la ville est juste au stade de candidature, il y a déjà beaucoup de projets qui sont accélérés. Et la ville met un peu plein d'efforts et plein d'investissements pour montrer qu'elle est capable d'accueillir les Jeux Olympiques. Notamment, il y a le... Je ne sais pas si on peut passer les images. Il y a le prolongement du Shinkansen, le TGV japonais. Et il y a la création d'un comité spécial qui a pour but de renforcer les liens entre le milieu des affaires et le milieu du sport pour convaincre notamment les investisseurs de mettre de l'argent dedans. Donc c'est vraiment un peu un dispositif spécifique qui a été créé par le gouvernement japonais pour faire du lien entre ces milieux-là. Je pense que Itani ou Natsuko pourront en dire plus dans des questions peut-être sur ces enjeux-là. Voilà. Par contre, petit détail marrant, le maire de Sapporo a décidé que le référendum ne serait pas utile dans sa ville, car des sondages ont montré que la population était si favorable qu'il n'y a pas besoin de lui demander son avis.
Vale, buenos días, muchas gracias. Agradecer a la organización de este
Bah déjà, ils vous remercient tous d'être là et en particulier les camarades des autres villes, et il est très content d'être là.
Vale, primero como voy a explicar un poco.
Donc, il voudrait d'abord commencer par préciser un peu le contexte des Pyrénées, parce que leur mobilisation, elle se fait dans un contexte vraiment rural de la montagne, ce qui est un peu différent de ce qu'on a entendu jusqu'ici.
En el Pirineo, esta es la sexta.
Donc depuis les 20 dernières années, c'est la sixième candidature que les Pyrénées essayent de présenter pour des Jeux Olympiques.
En el Pirineo está formado por
c'est des villages assez petits. Il y a là 19 villages qui ont en moyenne 500 habitants.
Por esto, la población está muy dispersa.
C'est donc une population qui est très dispersée et il manque d'infrastructures publiques comme les écoles, les hôpitaux.
Y ahora actualmente vivimos de un...
Donc c'est une région qui vit aussi beaucoup du tourisme. Il y a à peu près 60-70% de l'économie qui dépend vraiment que du tourisme, ce qui provoque une augmentation du prix des logements et aussi la multiplication de logements de pas très bonne qualité. Et d'emplois de pas bonne qualité.
Por esto, como creemos que tenemos unas...
Et donc comme la candidature elle s'appelle Barcelone-Pyrénées, les personnes qui sont mobilisées plutôt du côté des Pyrénées ont demandé aux personnes de Barcelone qui sont mobilisées et qui sont beaucoup plus nombreuses de plus prendre en compte leurs revendications spécifiques donc de la région des Pyrénées parce qu'elles ont tendance à être diluées dans plutôt les mobilisations urbaines. Donc plus centrer aussi la campagne sur les besoins spécifiques et les revendications spécifiques de la région des Pyrénées et pas que sur Barcelone.
Vale, entonces, voy a explicar cómo lo hemos hecho para diseñar esta campaña en el Pirineo, pero antes de todo, nuestro objetivo es aturar los Juegos Olímpicos.
El objetivo no es aturar los Juegos Olímpicos, el objetivo,
si nosotros paramos los Juegos Olímpicos, no cambia el sistema económico, no paramos la emergencia climática.
¿De qué nos sirven los Juegos Olímpicos? ¿De que el foco mediático esté situado en el Pirineo durante 3, 4, 5 meses?
¿Qué estamos consiguiendo con...
de se se passer là et ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'avoir une organisation assez structurée avec des gens dans chaque village. Donc là, maintenant, c'est autour de la campagne des Jeux, mais en espérant que ça va perdurer au-delà, voilà, du moment de la lutte sur la candidature olympique.
Claro, esto lo que nos va permitir es que quede gente.
L'idée, c'est que cette lutte contre les Jeux, elle permet aussi de former des militants sur place, avoir aussi une lecture politique de ce qui est en train de se passer et de pouvoir ensuite réinvestir tout ça dans une lutte plus anticapitaliste, au-delà de la simple question des Jeux, et puis de, que ce soit vraiment quelque chose qui, enfin, une lutte qui soit ancrée dans les différents villages et dans les différentes vallées localement.
Vale, entonces nuestro discurso se basa.
Alors, pour l'instant, leur argumentaire, il est surtout orienté sur des questions économiques parce que les gens, là, dans leur région, sont beaucoup plus sensibles à ces arguments-là qu'aux arguments, par exemple, sur le changement climatique.
Donc
là, ils ont fait un gros travail aussi de donner des informations et des données économiques un peu pour contrer le discours capitaliste qui dit que le tourisme, c'est bénéfique, ça apporte de la richesse, ça apporte du développement. Et donc ils essayent voilà, d'avoir vraiment des informations et des données précises pour contrer ce discours-là.
Y por otro lado, lo que hacemos es buscar targets.
Ok, donc ils ont réfléchi aussi à des phrases, des arguments qui soient destinés en fait à certaines catégories de population. Par exemple, comment on va s'adresser à nos mères, comment on va s'adresser à nos mamans, comment on va s'adresser à des plus jeunes, comment on va s'adresser à des paysans, des agriculteurs ou des étudiants. Et donc ils ont essayé de faire, de développer différents arguments courts et efficaces pour s'adresser à ces différentes catégories de population. Donc ils essayent aussi au maximum de transmettre quelque chose qui, enfin des messages et des arguments qui soient pas que négatifs, mais plutôt des arguments positifs qui donnent envie de se mobiliser et qui donnent aussi envie de s'engager dans un changement. Enfin en gros que la transformation économique et le changement de système, il fasse envie et il donne de l'espoir et il donne de la motivation aux gens et que ce soit pas un truc négatif. Que ce soit joyeux.
A nosotros, nos hace falta una victoria.
Et donc, ils espèrent aussi beaucoup de cette lutte contre la candidature parce que s'ils obtiennent une victoire sur cette lutte anti-olympique, en fait, ce serait aussi une porte ouverte pour continuer la mobilisation, aussi pour aller beaucoup plus loin sur la nécessité de changer de sortir du système capitaliste, etc. Et donc, et que ce soit fait de manière joyeuse et chouette, quoi. Voilà. Et il a dit aussi que si vous aviez des questions, on pourrait se capter aussi plus tard et que ce serait plus facile en plus petit comité.
Oui, bonjour. Sur les Pyrénées, je crois savoir qu'il y a un référendum annoncé. Alors, comme on a eu l'exemple de Hambourg, juste avant, ça serait intéressant de savoir comment se présente ce référendum.
Si, si, claro, como nosotros ya.
Donc, ça fait déjà un an qu'ils sont en campagne sur cette histoire de référendum. Et dimanche dernier, il y a eu une manifestation qui a rassemblé 5000 personnes dans leur coin des Pyrénées. C'était un peu un test, cette manifestation, parce que c'était la première. L'enjeu, c'était un peu de voir s'ils étaient suivis dans leur discours et s'ils avaient réussi à motiver des gens. Et en fait, il y a eu beaucoup plus de monde que ce qu'ils avaient prévu, donc c'était très positif. Et donc là, ça, c'était un peu la manifestation dont il vient de parler, c'était un peu une pré-campagne. Et donc là, cette semaine, ils vont se mettre un peu plus sur la campagne, spécifiquement sur le référendum. Et donc il dit, comme on disait aussi au siècle dernier, on va faire à la fois de l'agitation et de la propagande. Et donc l'agitation, c'est des idées très simples qui vont s'adresser à beaucoup de monde, comme faire un tag sur l'autoroute, une petite interview à la télé, un petit tract, voilà, des trucs très simples et très efficaces pour qu'ils s'adressent au maximum de monde. Et la propagande ?
Combinado con la propaganda que es como hoy, Okay.
Donc là, aujourd'hui, on est plutôt dans l'aspect propagande, c'est-à-dire d'avoir des discussions qui sont plus longues et plus approfondies, qui s'adressent à un public plus réduit, mais qui sont aussi très importantes parce que chaque personne qui aura assisté à cette discussion et qui sera convaincue par ce discours-là, elle sera en mesure aussi de transmettre ses arguments et donc d'élargir aussi les gens qui seront touchés par le discours.
Je trouve très, très important ce qui vient d'être dit. C'est juste une remarque pour dire que la liaison entre la volonté d'aller au-delà des Jeux Olympiques et de voir que le combat ouvre aussi des portes vers autre chose, et notamment vers une radicalité qui est le combat contre le système dans lequel nous sommes, c'est très important. Et on voit à travers tous les exemples qui ont été donnés précédemment à quel point nous sommes face à un système très dur, et donc nous avons intérêt à cela. Et la deuxième remarque que j'ai trouvée très importante dans l'intervention qui vient d'être faite, c'est le lien avec, entre cette réflexion fondamentale que tu viens d'exprimer et la volonté aussi d'avoir un discours accessible à tous en choisissant précisément le type de message à passer. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est très, très inspirant dans notre mobilisation. Et en tous les cas, merci pour cette intervention.
Si me permitís, como gracias a ti por lo que nos has dicho, voy a profundizar.
Donc il dit, on prétend pas depuis notre petit coin des Pyrénées faire directement tomber le système capitaliste, mais par contre, on est des militants anticapitalistes qui sommes implantés dans les Pyrénées depuis de nombreuses années, qui connaissons bien les réalités de cette région. Et donc, quand nous, on parle avec les gens, on a un discours qui est pas très abstrait, qui en fait est un discours qui les touche de très près, sur des réalités qu'ils vivent à la première personne. Qui nous manque, c'est d'avoir dans différentes régions, plutôt du sud de l'Europe, dans tout le monde, mais c'est un peu plus ambitieux, mais déjà dans nos coins de l'Europe, d'avoir un discours aussi un peu localisé comme ça, qui touche les gens et qui permette ensuite de monter en généralité et d'avoir un discours plus critique sur le système capitaliste, mais à partir de ce que vivent les gens et de ce que les gens connaissent. Voilà, je crois que c'est à peu près ça.
Ouais, une question très rapide. En fait, j'ai l'impression dans les villes où justement il y a eu un référendum et que les JO n'ont pas été acceptés, c'est quand même des régions très militantes. Moi, je connais pas bien l'histoire d'Hambourg, mais l'Allemagne, c'est là d'où vient le Black Bloc, par exemple. Dans les Pyrénées, en Catalogne, je vais pas refaire l'histoire, mais c'est pareil, c'est des régions très très militantes où il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans la rue. Je crois qu'à Milan aussi, il y a eu quelque chose qui a fait que les Jeux Olympiques ne se sont pas faits dans la ville. Et en fait, ma question, elle est aux deux personnes. Est-ce que dans vos luttes, est-ce que vous avez réussi à faire le lien entre à la fois les gens qui parlent entre guillemets aux institutions, puisque c'est quand même une grosse institution, les Jeux Olympiques, mais également les mouvements un peu plus autonomes, anarchistes, de squat, etc., etc. Et est-ce que vous avez réussi à faire ce mix-là, ce lien-là, et ce qui vous a permis de gagner, ou est-ce que au final, c'est juste une des composantes, on va dire, du mouvement social qui a permis ces victoires-là?
Je vais essayer de répondre en français, mais excuse si ça ne marche pas. En Hambourg, en fait, c'était pas le Black Bloc qui a supporté. Nous, c'était une pluralité de gens, même des gens non militants et non politiques. Et je voulais aussi faire une référence à toutes les autres régions qui ont battu cette application. Par exemple, les régions, surtout de Munich, c'était une région aussi rurale qui a été un référendum. Et aussi des régions en Autriche et en Suisse où il y a aussi des gens qui n'étaient pas dans une sens agile, militante, urbain, qui étaient battus les IOC.
On peut s'arrêter là. Donc on remercie les personnes qui ont participé, mais aussi surtout, mais aussi les interprètes qui, on le rappelle, sont bénévoles et, enfin, c'est pas leur métier. Et voilà. Donc merci beaucoup. Et on voulait partir avec une chanson de Pleyel, en fait, qui a été faite par un collectif qui s'appelle Respire et qui parle du coup de la lutte à Pleyel.
Pour qu'ils arrivent au stade à l'heure, ces champions surmédiatisés pour le direct à la télé. La banlieue doit faire allégeance dans ces supérieures circonstances. Faudrait brader notre descendance. Non, 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 nous, on veut voir nos enfants respirer. Et encore, eux aussi ont le droit de faire du sport. Gagner, performer, ils seront d'accord. Non, 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 nous, on veut voir nos enfants respirer. Et encore, eux aussi ont le droit de faire. S'annoncent nos Jeux Olympiques pour des médailles et de passage. L'enfer urbain en héritage du désespoir sur l'île Orage. Des centaines d'enfants appelés Yel se font juste couper les ailes pour une trop dure et la sentence. Des plus grands quelle irrévérence. Ils nous affichent leur arrogance. Non, 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 nous, on veut voir nos enfants respirer encore. Eux aussi ont le droit de faire du sport. Gagner, performer, ils seront d'accord. Non, 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 nous, on veut voir nos enfants respirer encore. Eux aussi ont le droit de faire du sport. Gagner, performer, ils seront d'accord. De belles performances athlétiques, compris d'une flopée d'asthmatique, ils seront testés la créatine. On prendra de la ventoline pour surmonter la gasoline. Au nom de la santé mentale, sociale et environnementale, peut-on parquer dans un rond-point l'école du futur citoyen? Avec eux, on brandit le poing. Non, 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 nous, on veut voir nos enfants respirer encore. Eux aussi, ils ont le droit de faire du sport. Gagner, performer, ils seront d'accord. Non, 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 nous, on veut voir nos enfants respirer encore. Eux aussi, ils ont le droit de faire. Gagner, performer, ils seront d'accord. Pour ne pas en 2024 avoir le cœur et le muscle en plâtre, faut desserrer le nœud routier. On ne sera pas asphyxié, même si l'État a parlé. Sa pièce est un mauvais théâtre, il va bien falloir en débattre, cesser de nous prendre de haut. Ces JO nous mettent le chaos. Pourtant on les dit écolo. Non, 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 non. On veut voir nos enfants respirer et encore. Eux aussi ont le droit de faire du sport. Gagner, performer, ils seront d'accord. Non, 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 non. On veut voir nos enfants respirer.
On ne pouvait pas finir cette émission sans évoquer les incidents qui ont eu lieu au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions entre les équipes de Liverpool et du Real de Madrid le samedi 4 juin. Le match devait être organisé à l'origine en Ukraine, mais a été transféré en France. L'organisation et la gestion de cet événement a été déplorable, suscitant une indignation internationale. La foule a été compactée, attendant sans information, avant de se retrouver gazée, matraquée, embarquée par les forces de l'ordre. Les supporters ont pu se faire une idée précise de la gestion de foule à la française, qu'elle soit manifestante ou non. Pour se couvrir, le préfet de police de Paris, Didier Lannemand, suivi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont évoqué des falsifications massives de billets, des hordes de jeunes de banlieue déferlant sur le stade et même une grève de RERB. Comme à son habitude, l'État français a désigné leurs éternels coupables, alors que sa responsabilité dans l'organisation et la gestion de cet événement sportif est patente. Cela laisse présager du pire pour les Jeux Olympiques de 2024.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.